À présent, on va accueillir Ulysse Gosset qui nous a rejoint, éditorialiste politique internationale pour BFM TV. Bonsoir Ulysse. Bonsoir Jean-Louis Bourlange. Bonsoir. Vous êtes ancien député, vous êtes ancien président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Patrick Dutartre, vous êtes général de l'armée de l'air, ancien leader de la patrouille de France. Et bonsoir Elsa Vidal, éditorialiste bonsoir. Politique internationale BFM TV, puisqu'on va parler avec vous de ce coup de téléphone qui pourrait peut-être tout changer. Demain, Donald Trump et Vladimir Poutine vont donc échangé pour la première fois depuis la proposition américaine de cesser le feu. Appel redouté par les Ukrainiens qui craignent que ce deal, un démantèlement de leur pays au cours de cette conversation. Donald Trump, ce soir, a pris la parole pour en dire plus.
On va avoir un appel très important. Vous savez, on a déjà eu des appels, mais on arrive à un moment très important. Et on veut voir tout ça entre l'Ukraine et la Russie se finir. Et je pense que l'Ukraine le souhaite, tout le monde le souhaite.
Jean-Louis Bourlange, nous avons parlé de territoire, de centrales énergétiques, nous discutons de cela, de partager certains actifs, c'est ce qu'a dit Donald Trump. Il y a deux mots qui ressortent, territoire et partage. Est-ce que potentiellement il va être question de concessions territoriales? Est-ce qu'il y a un risque, en tout cas c'est la crainte de Kiev, que la Russie et les États-Unis ne discutent entre eux en fait, du démantèlement du pays?
Et moi, je ne suis pas la petite Delphes, hein. Je ne sais pas du tout ce qui va sortir de cette discussion. On peut attendre le pire de Donald Trump si on juge d'après ce qu'il a dit et fait depuis 3 semaines, c'est-à-dire un ensemble de concessions à la fois unilatérales, massives et désordonnées faites à l'autorité russe, qui, à mon avis, M. Poutine est un esprit plus ordonné, plus clair, qui sait mieux ce qu'il veut. Et les mots que vous avez rappelés sont des mots inquiétants. On parle de, il parle pas vraiment de territoire, il parle de land, il parle de terre, d'espace à construire, il parle de partage, comme si il s'agissait de se partager l'Ukraine. Il y a rien.
De partage entre qui? Partage entre Ukrainiens et Russes, ou partage rien. Entre Américains et Russes, parce que ça aussi c'est une question.
C'est un discours complètement incohérent. Il dit voilà, on a fait un accord, la moitié du cessez-le-feu est fait puisqu'on s'est mis d'accord avec l'Ukraine. Ça n'a aucun sens. L'Ukraine c'est un côté et en principe on était solidaires de l'Ukraine. Maintenant il faut faire la seconde moitié et il arrive comme ça. Non, moi je crois qu'on a lieu, on a tout lieu d'être extrêmement inquiet de cet échange pour une raison simple, c'est que les deux protagonistes ne poursuivent pas le même objectif. L'objectif de Monsieur Trump c'est la paix le plus vite possible. D'abord il y a des avantages concrets, mais il y a d'abord essentiellement, à mon avis, une profonde satisfaction de vanité. Il a dit que Biden était nul, que lui allait faire la paix en 2 coups de cuillère à peau.
Il va être celui qui va résoudre le conflit en quelques heures.
Poutine, lui, a un objectif tout à fait différent. Il veut la victoire. Le problème, c'est que quand on réfléchit,
la victoire par la capitulation de l'Ukraine,
la victoire de l'autre sont parfaitement compatibles. Il suffit de donner la victoire à Poutine pour faire la paix. C'est assez simple.
Et c'est ça le risque, précisément.
Je pense que donc il y a une asymétrie profonde. L'autre jour, j'étais avec le général Duterte sur une autre chaîne et je citais le célèbre couple de Michel Tournier. Michel Tournier, grand romancier, disait qu'il y avait toujours en politique un clown blanc et un auguste. Mmh. Et il me paraît évident que le clown blanc, il suffit de le voir, c'est Poutine et que l'auguste, c'est Trump. Et le clown blanc fait tourner l'auguste autour de lui. Et ce que donnera Trump demain est très inquiétant, parce que pour l'instant, ce qui est sorti de sa tête, c'est un chaos de mots, d'idées, et sans qu'on sache du tout où il veut se stabiliser.
Ulysse, c'est effectivement très inquiétant ce que vous êtes en train de dire, parce qu'à la fois, Donald Trump veut la paix, Vladimir Poutine, comme vous l'avez dit, veut la victoire, donc les intérêts peuvent converger en donnant la victoire à Vladimir Poutine, Donald Trump obtient sa paix. À quel prix? Au prix de faire des concessions territoriales, de donner ces fameux 20% de territoires ukrainiens qui sont occupés par la Russie à Moscou? Et est-ce que ces concessions territoriales pourraient être faites sans la validation de l'Ukraine? Est-ce que ça peut se dealer, là, comme ça, demain, au téléphone, sans les Ukrainiens?
C'est ce qu'espère Donald Trump. C'est effectivement conclure demain avec Poutine au moins un accord général sur les grandes lignes et sur les grands points qui pourrait ensuite faire l'objet d'une négociation entre les délégations. On assiste depuis trois semaines à deux styles de diplomatie complètement différents. Il y a la diplomatie, je dirais, de type soviétique, qui est incarnée par les Russes d'aujourd'hui, mais avec des diplomates de l'époque soviétique, comme le ministre des Affaires étrangères Lavrov. Et puis la diplomatie à l'américaine, à la Donald Trump, qui passe de petites phrases en petites phrases, d'apparitions télévisées dignes de la télé-réalité dans le bureau ovale ou ailleurs. Et là, demain, pourquoi c'est important ? Parce qu'enfin, il y a un coup de fil qui pourrait être décisif pour se mettre d'accord. Et la petite phrase lâchée par Trump dans son avion est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il décrit point par point ce qu'il entend négocier avec Poutine. Et dans ces points précis, il y a notamment le sort de la centrale nucléaire de Zaporijjia. C'est l'une des choses qui a filtré aux États-Unis. Ce n'est pas venu de Moscou, c'est venu de Washington. Effectivement, la centrale nucléaire est sur la table de négociation. On sait qu'elle est occupée par les Russes depuis 2022. On sait qu'elle est quasiment à l'arrêt et que les Ukrainiens veulent la récupérer et qu'ils n'ont pas pu le faire jusqu'à présent. Est-ce que Trump va lâcher cette centrale et la donner aux Russes avec la région qui l'entoure, une région qui est déjà annexée par Poutine ? Est-ce que c'est l'un des cadeaux faits à Poutine ? Est-ce que, au contraire, il va la laisser aux Ukrainiens en échange, par exemple, d'une levée des sanctions ? Est-ce que cette centrale pourrait être placée sous un contrôle international, avec l'AIEA, bien sûr, mais aussi une force de protection ? Enfin, tout est sur la table, en fait. Et puis, il y a la question des échanges de territoire. Et là, si vous voulez, on est dans un contexte qui s'accélère de façon incroyable. Alors, la poche de Koursk qui avait été conquise par les Ukrainiens est maintenant quasiment reprise par les Russes. Et donc, Zelensky n'a plus de levier pour négocier les partages de territoire. Donc, on est dans une situation où, effectivement, on se demande comment se passera la phase d'après, c'est-à-dire une fois que les deux chefs d'État se seront mis d'accord, quelle sera la marge de manœuvre de Zelensky ? Elle sera, a priori, quasiment nulle. Donc, on a forcé Zelensky à accepter un cessez-le-feu. Ça s'est passé à Washington et puis ensuite, après lui avoir tordu le bras, il y a eu finalement une concession faite par les Ukrainiens. Mais on n'a rien demandé en échange à Poutine. En tout cas, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc voilà où on en est ce soir.
Il n'est pas seul, quand même, Volodymyr Zelensky. Moi, je veux bien, si je comprends bien, la discussion va se jouer demain au téléphone. Alors, partage de territoire, voilà, tu prends ça comme territoire. Moi, je prends Zaporijjia. Non, toi, tu prends Zaporijjia. On voit, on partage, je ne sais pas. Derrière, Volodymyr Zelensky est spectateur de ça, mais enfin, il n'est pas seul. Il y a l'Europe, quand même, derrière.
Non, mais moi, je crois que. Il ne faut pas aller trop vite, en fait. Je pense que ce coup de téléphone est de manière décisive, enfin, je veux dire, et majeur pour la suite. Toute la négociation ne va pas se faire demain au téléphone, mais ce qui serait important, c'est qu'on soit d'accord sur un cessez-le-feu. Parce que de toute manière, c'est le préalable à tout le reste. Il faut un cessez-le-feu sur des choses qu'on peut négocier, entre guillemets, par téléphone, mais de toute manière, qui ne seront pas actées par Zelensky à n'importe quel prix. Je pense effectivement, comme le dit Ulysse, qu'il va y avoir certainement un enjeu autour de la centrale de Zaporijjia. Ça me semble très probable. Mais pour l'instant, rien ne sera acté. Par contre, ce qui est important, c'est que ce coup de fil débouche sur un cessez-le-feu. Ce sera, entre guillemets, une première victoire, entre guillemets, pour Trump, mais ça n'augure rien de ce qui va se passer, parce que Zelensky n'approuvera pas, et les Européens non plus n'approuveront pas un marchandage qui serait complètement en défaveur de l'Ukraine. Mais on doit passer par le cessez-le-feu.
Mais est-ce qu'il s'agira vraiment demain dans cette discussion de trêve et de cessez-le-feu ? Parce que le mot cessez-le-feu n'a pas le même sens, j'ai l'impression, chez les Russes. Quand je regarde ce que dit le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Rouchko, dans un entretien au quotidien Ivestia, il dit « Nous demanderons que des garanties sécuritaires en béton fassent partie d'un accord, mais à aucun moment, il ne mentionne cette fameuse trêve de 30 jours.
C'est d'ailleurs l'intérêt des Russes dans cette histoire, c'est de, sachant à quel point Donald Trump est intéressé à une trêve, conclue assez rapidement, signée assez rapidement, l'intérêt des Russes, au contraire, est de transformer de l'intérieur cette proposition de trêve en accord de paix, en négociation sur un accord de paix. Et l'accord de paix ne peut être, à l'heure actuelle, du point de vue des Russes, conclu que sur la totalité de leurs revendications, qui sont absolument les mêmes que celles qu'ils avaient en 2021. Donc, je pense que ce que Donald Trump, s'il se laisse faire, on va voir demain, quelle est sa véritable latitude face à Vladimir Poutine, parce que là est la véritable inconnue de cette équation. Ce que Donald Trump peut nous présenter comme une victoire, ça va être contre ces avoirs ukrainiens que nous avons déjà énumérés, la centrale de Zaporijjia, les terres rares, peut-être d'autres avoirs encore, dire, eh bien, les Russes acceptent de cesser le feu. Et ça, c'est un grand progrès. Et peut-être même qu'il y aura des concessions territoriales d'ores et déjà demain. Aujourd'hui, on parle déjà dans la presse américaine d'une reconnaissance de la Crimée comme étant un territoire russe. Si tel était le cas, ce serait une manière pour Donald Trump de se laisser forcer le bras par le Kremlin. Encore une fois, on verra demain quelle sera la tonalité de la discussion entre ces deux hommes. Et c'est là que quelque chose va être révélé.
Il pourrait y avoir des annonces déjà dès demain sur des concessions territoriales. Parce que j'imagine que du coup, on sait qu'il y a les négociateurs qui discutent en coulisses. Si demain, il y a un appel, ça veut dire que tout a déjà été plus ou moins négocié et que demain, on va juste finaliser ça.
Je crois que c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Il y a une différence, comme on dit maintenant, on aime beaucoup ce mot, de temporalité. Oui. C'est un cessez-le-feu. Et tel que Trump l'avait conçu au départ, c'est on arrête tous les compteurs et on commence à négocier. Et ça, un cessez-le-feu de 30 jours, ça a sa logique pour enclencher une négociation. Mais toutes les réponses qui ont été faites du côté de Moscou ont été non, il faut aller, effectivement, il faut régler tous les problèmes. Et ça, c'est soit Trump concède tout de suite, soit il n'y a pas de cessez-le-feu. Enfin, c'est incompatible avec un délai aussi court. Donc on est dans une situation où ils ne parlent pas l'un et l'autre de la même chose.
Ils ne parlent pas le même langage, ils n'ont pas la même base de discussion. Oui, l'un parle d'une trêve et l'autre parle d'un accord de paix.
Effectivement, Poutine a tout à fait intérêt à ne pas consentir le cessez-le-feu, puisque c'est ce que veut Trump. Trump, s'il a un cessez-le-feu, avec la façon dont il présente les choses, la paix est faite, j'ai réussi, là où George Washington, Jules César, le pape, etc., n'ont jamais réussi, moi j'ai réussi. Bon, très bien. Mais donc Poutine a intérêt à dire, oui, mais pour avoir le cessez-le-feu, il faut que tu les alignes, les concessions. Et alors moi, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a la centrale de Zaporijjia, il y a l'arrêt des sanctions, ça c'est quand même très important, et là on retrouve les Européens. Il y a le problème d'élections en Ukraine, puisque M. Zelensky, à la différence de M. Poutine, est un dictateur, donc il y a tout un ensemble de choses qui peuvent être mises sur la... et qui vont être mises, à mon avis, progressivement. Chaque concession va entraîner une nouvelle revendication, et le cessez-le-feu risque d'être différé, ou alors il faut un cessez-le-feu tout de suite, mais là, à mon avis, il faudra qu'il y ait... que Trump fasse d'énormes concessions également tout de suite.
Et surtout, il ne se serait pas mis d'accord avant. C'est-à-dire que avant de commencer à discuter, c'est vrai, puisque d'autant que si jamais demain il décide d'un cessez-le-feu, il y a des conditions. C'est pas les conditions, on les négocie pas en 24 heures ou en quelques heures.
Non, mais elles sont discutées à Jeddah à Riyad depuis longtemps.
Elles ont été mises au point depuis longtemps, peut-être même avant Jeddah ou Riyad. C'est ça qui est assez fascinant, c'est de voir. Et alors, vous parliez de l'Europe. L'Europe complètement absente, complètement passée aux oubliettes dans cette négociation.
Enfin, pour l'instant, parce qu'encore une fois, il faudra voir ce qui ressort de cet appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Jean-Louis Bourland, je rebondis sur ce que vous disiez. On n'a pas la même base de négociation. L'un veut une trêve, l'autre veut imposer ses conditions. Et quand on regarde ces conditions, Ulysse, je repense ce que disait Alexandre Grouchko, les conditions... C'est toujours les mêmes, elles n'ont pas changé. Le statut, la neutralité de l'Ukraine, donc en gros la démilitarisation de l'Ukraine, plus de soldats, aucun soldat de l'Alliance Atlantique en Ukraine, et peu importe sous quelle forme, que ce soit un contingent européen ou autre, hors de question. Et puis, des élections, un changement d'État. Et les concessions territoriales. Donc en fait, ce sont les mêmes conditions qui n'ont pas bougé d'un iota, et ce sont les fameuses conditions de paix selon Moscou. Donc comment on fait pour discuter sur cette base-là?
Alors d'abord, je pense qu'avant qu'ils aient donné le feu vert au coup de téléphone, tout a été préparé.
Déjà dealé entre les négociateurs.
Par les conseillers des deux présidents. Non, ça ne veut pas dire que tout est réglé.
Le coup de téléphone
a quand même son importance parce qu'ils échangent directement. Et justement, ils peuvent négocier, je ne dirais pas face à face puisqu'ils sont à distance, mais néanmoins, ils peuvent argumenter. Mais les équipes des deux présidents ont préparé des synopsis de questions, de points importants sur lesquels on peut avancer ou pas, etc. Et dans les deux points majeurs sur le plan géopolitique, c'est-à-dire pour les années qui viennent, c'est la neutralité de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire, par exemple, que l'Ukraine n'aurait plus d'armée? Elle a déjà renoncé à son arme nucléaire pour justement pouvoir entrer dans l'OTAN. Est-ce que la neutralité de l'Ukraine, pour les Russes, ça veut dire plus d'armée du tout? Ça serait un suicide collectif, si j'ose dire. Donc, ça paraît difficile. L'autre point, c'est le refus de Poutine de voir l'Ukraine rentrer dans l'OTAN. Ça paraît acquis. C'est-à-dire que Trump l'a dit quasiment publiquement. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste effectivement... la question des sanctions, et je pense que c'est l'un des points majeurs pour Poutine, c'est obtenir un début de levée des sanctions américaines. Les Européens feront ce qu'ils voudront. Je ne suis pas d'accord pour dire que l'Europe est complètement inexistante. Je pense que l'Europe n'a jamais été aussi présente à la face du monde et de la Russie depuis 10 jours, à force de réunions, pas simplement de dirigeants politiques, mais des états-majors, et ça va se poursuivre. Jeudi, il y a encore une réunion à Londres. C'est-à-dire que l'Europe montre ses muscles aussi. Alors, peut-être sont-ils faibles, mais elle les montre. Et donc, c'est une façon de peser sur la négociation, et Trump ne peut pas l'ignorer. Ça ne veut pas dire
que... Il ne peut pas l'ignorer, c'est-à-dire qu'il ne... Est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à concéder ces fameux 20% de territoire aux Russes?
Non, mais il y a un moment où peut-être...
Sous quelle forme?
Il y a un moment où Zelensky peut aussi dire « je ne veux plus négocier » et dire « ce qu'on me propose, c'est une capitulation qui est inacceptable » et il sera soutenu par les Européens.
C'est ce qu'Emmanuel Macron a dit.
Mais pas seulement Emmanuel Macron, les dirigeants allemands, les dirigeants britanniques, une trentaine de chefs d'état-major qui viennent
à
Paris.
Alors justement, précisément, à l'issue de ce coup de téléphone, effectivement, Donald Trump accepte de concéder la Crimée à la Russie, de concéder ces fameux 20% de territoire dans l'est de l'Ukraine qui sont occupés par la Russie, le pire des scénarios. Volodymyr Zelensky refuse, c'est inacceptable. L'armée ukrainienne refuse. Est-ce que les Européens pourront soutenir les Ukrainiens dans cette volonté de continuer la guerre?
Non, mais concéder, ça veut dire reconnaître provisoirement l'occupation, ouais. Ou ça veut dire reconnaître la souveraineté russe, ah. Et en plus reconnaître la souveraineté russe sur une partie de ces territoires qui ne sont pas encore occupés par l'armée russe. Donc il y a des tas de... Il y a énormément de détails, énormément de diables dans tous les détails.
Mais c'est bien pour ça que demain, ce n'est pas ce qui va se passer. Demain, ils vont essayer de se mettre d'accord, déjà d'échanger... Bon, éventuellement sur une trêve, avec peut-être une condition sur laquelle ils vont discuter. Poutine va peut-être dire à Trump, moi je veux bien une trêve, mais ça, c'est incontournable. Alors là, on ne sait pas trop ce que c'est que ça. Ça peut être la centrale de Zaporijja, ça peut être de dire, moi je recule d'aucun mètre carré, tout ce que j'ai pris, je le garde. Et puis voilà, ça va être un peu un deal. La reconnaissance officielle de la Crimée, pas sûr. Il faut qu'on l'escape. D'abord, ça ne m'appartient pas. C'est pas lui, hein, l'Américain. Donc je pense qu'il va y avoir 2-3 points comme ça pour que Trump puisse annoncer « Ok, il y a une trêve pendant laquelle on va discuter ». Et c'est important pour Trump d'obtenir cette trêve, même si derrière, il n'y a pas encore le plan de paix, parce que pour
l'image publique... Même si tout n'est pas réglé, il faut qu'il affiche cet accord.
Mais qu'il affiche déjà qu'il a une première victoire.
Alors justement, quel ton, Elsa, Donald Trump va-t-il adopter? Ton menaçant, ton conciliant? Parce que c'est vrai que la semaine dernière, il n'hésitait pas à dire qu'il ferait pression sur Vladimir Poutine, qu'il envisageait des sanctions à grande échelle, qu'il avait un levier de pression.
Moi, je ne le connais pas, ce levier.
Bon, en tout cas, il avait brandi cela. Et puis, hier soir, dans son avion présidentiel, il n'en a pas du tout parler.
Non, alors je pense que s'il a un moyen de pression déjà sur et une volonté de faire pression, parce que la question est là en réalité, sur Vladimir Poutine, c'est un moyen qu'il ne rendra pas public avant, parce qu'alors il s'aliénerait Vladimir Poutine pour le coup. On négocie pas du tout comme ça avec les Russes. On négocie derrière des portes fermées, et une fois qu'on est d'accord, on va au devant du public. Personnellement, des sanctions vis-à-vis de la Russie venant des États-Unis, j'ai vraiment du mal à m'imaginer ce que ça peut être, parce qu'en fait, le commerce russo-américain a déjà diminué de 10 fois. D'accord, il a été décimé. Donc, il reste très très peu de secteurs économiques sur lesquels intervenir. Le moyen de pression que je vois, c'est au contraire dans le renouvellement du commerce russo-américain, puisque, et notamment l'exploration des hydrocarbures dans l'Arctique, parce qu'en 2011, il y avait un très très gros projet entre ExxonMobil et la société Rosneft d'exploitation d'hydrocarbures, qui prévoyait des centaines de milliards d'investissements dans l'Arctique pour exploiter ces gisements conjointement, tout comme la Russie aurait eu le droit de forer dans le golfe du Mexique. Donc il y avait une pente ascendante du commerce russo-américain en 2011. Donc le levier, il est là, il est dans la forme positive. La sanction, j'y crois absolument pas, mais je vais peut-être être complètement contredite demain par les faits. Je le souhaite.
On évoquait tout à l'heure la place de l'Europe, la place de la France dans ces négociations. Ça ne vous a peut-être pas échappé. L'eurodéputé français Raphaël Glucksmann a estimé que la statue de la liberté devait retourner en France. Et ce sujet-là a fait réagir jusqu'aux États-Unis. La question a été posée à la porte-parole de la Maison-Blanche. Écoutez sa réponse.
Le président Trump va-t-il renvoyer la statue de la liberté en France ?
Absolument pas. Et mon conseil à ce politicien français anonyme de bas étage serait de lui rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis d'Amérique que les Français ne parlent pas allemand aujourd'hui. Il devrait donc être très reconnaissant envers notre grand pays.
Voilà la déclaration de la porte-parole de la Maison-Blanche. Jean-Louis Bourlange, est-ce qu'on est dans la punchline quand elle dit voilà, c'est uniquement grâce aux États-Unis d'Amérique que les Français ne parlent pas allemand aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce ton, de cette escalade verbale entre les États-Unis et la France ?
D'abord, je crois que M. Glucksmann a fait une espèce de sortie qui n'était pas très heureuse, à vrai dire, parce que quand on a donné la statue, on ne va pas la récupérer. La réaction est évidemment extrêmement forte, mais elle ne me surprend pas parce qu'on a déjà eu une réaction extrêmement déplaisante de la part du président Trump quand il disait que jamais les Français ne seraient solidaires si l'article 5 devait être mis en œuvre, on s'était solidarisé. Le seul moment où on a mobilisé l'article 5, c'était au moment des Twin Towers, et nous étions présents au rendez-vous. Je pense que le président Trump avait quand même oublié une chose importante, c'est que nous avons tenu les États-Unis sur les fonts baptismaux. Quand il dit qu'on parlerait peut-être allemand, je n'en sais rien, on a plus de morts que les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas un concours, mais c'est comme ça. Mm-hmm. Et surtout, les États-Unis, c'est quand même Rochambeau, l'amiral de Grasse, Lafayette, qui ont permis de gagner la bataille de Yorktown, qui a été l'élément décisif de la fondation des États-Unis. Mais l'histoire américaine n'est certainement pas le sujet principal du président Trump. Et je crois qu'on n'a pas trop intérêt, ni les uns ni les autres, à s'aventurer sur ces terrains de « tu ne m'as pas dit merci », etc. Sur le merci, qui est un truc important, le reproche qui a été fait au président Zelensky, je crois que c'est inadmissible ce qu'a dit le président Trump, parce qu'il n'a pas à dire merci. La garantie avait été donnée à Bucarest de soutenir, de garantir, la garantie avait été donnée sur les frontières ukrainiennes en échange de l'abandon des équipements nucléaires dont ils disposaient. Donc il y avait un engagement international des Russes, des Anglais et des Américains. Les Russes l'ont violé et les Américains avaient un devoir moral en échange de la concession qui avait été faite par les Ukrainiens d'intervenir. Mais ça, cette notion de devoir moral, c'est une chose qui n'entre pas dans les lobes du président Trump.
En un mot, Yves, effectivement, vous le rappeliez, il y a quelques jours, Donald Trump disait, en fait, c'est dans le cadre de l'OTAN, voilà, il disait mon plus gros problème avec l'OTAN, c'est que si les États-Unis avaient un problème et qu'on appelait la France ou d'autres pays, que je nommerais pas, et moi, il viendrait pas forcément nous aider. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette espèce de surenchère verbale entre Paris et Washington ?
Vous savez, en écoutant la porte-parole de la Maison-Blanche tout à l'heure, je me disais, c'est incroyable, le ton qu'elle emploie elle-même, et elle me faisait penser à la porte-parole de M. Lavrov.
Maria Zakharova.
C'est à Maria Zakharova, c'est exactement le pendant. Ce qui veut dire qu'on est mal parti, parce que ce sont que des, si vous me permettez l'expression, des sous-fifres. Donc c'est quand même
quelque chose.
Les chefs
ont aussi une rhétorique assez parallèle.
Exactement. Et pour revenir tout à l'heure, effectivement, dans l'Europe, elle est pas. Plus ils nous insulteront, et plus l'Europe se ressoudra.
Yves, on va s'arrêter là. On poursuivra cette discussion demain, bien évidemment, et on débriefera cet échange entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Très bonne soirée à toutes et à tous, et à demain.